Fermez. Le chapitre 6e, 2 Rois, chapitre 6, s'il vous plaît. Alors, on a chanté un cantique. J'ai toujours de la misère à chanter le cantique au jour béni. Parfois, j'ai le pratique chez moi. Je n'aidais pas là, ce soir parce que je regardais les notes, je manquais les mots. Je regardais les mots, je manquais les notes. Mais ça va aller bien avec le message parce qu'on va parler de Élie et Élisée. Puis à la fin, on va parler de la prière. Et puis, un peu, puis ça va. Tout était tellement beau avec la prédication. C'est un bon cantique. C'est juste moi, j'ai de la misère à acheter. En 2 Rois, chapitre 6, le verset 1 et 2. Et ce soir, on va regarder, c'est-à-dire, non, c'est pas 2 Rois, chapitre 6, c'est 2 Rois, chapitre 2. Excusez. Et on va regarder Élie et puis Élisée. 2 Rois, chapitre 2, le verset 8 à 9. 2 Rois, 2, 8 à 9. Alors Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je te fasse, que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Et Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Alors, le nom Élie, ça signifie « Dieu est un père ». Le nom Élisée, « Dieu est salut ». Quelque chose, hein? On voit bien Dieu le Père, on voit bien ensuite Dieu le Fils, Dieu le Père qui a envoyé son Fils et qui a fait tous les miracles, et puis Dieu le Fils. Ces deux hommes-là aussi sont une belle image de Jean-Baptiste, et puis ensuite Jésus-Christ qui a suivi, qui était Dieu et salut. Et Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle, parce qu'on parle des miracles ici, la demande d'Élisée. Et Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle, Jésus lui en a fait que si on les écrivait tous, la planète serait pas assez grande pour tout écrire. Alors c'est vraiment lui, les exemples dans la Bible sont vraiment un faible exemple comparé à vraiment la grandeur de Dieu. Alors, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi. » Et Élisée, il dit à Élie, « Eh bien, je veux une double portion de ton esprit. » Verset 10. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Et là, Élisée dit à Élie, Élie dit à Élisée, la réponse à ta demande, elle est conditionnelle. Il y a une condition à remplir. Et puis, c'est difficile ce que tu demandes. Alors, si tu me vois, et c'était là la vraie demande. On regarde le début du verset 11. Comme il continuait à marcher en parlant. Et c'est la condition de la demande, eh bien, la première condition, c'était qu'Élisée continue à marcher avec le Seigneur. Continuer à parler avec lui en marchant, à marcher en communion avec lui. Lui, il fallait qu'il fasse avec Élie. Quand Élie a dit, la parole nous dit qu'il a continué, c'est parce qu'il a été invité souvent à arrêter de le suivre. Puis à chaque fois, il a décidé de suivre, continuer à marcher avec Élie. Puis il a persisté. Puis rendu à ce point-là, Élie lui dit encore, bien, la condition, c'est que tu continues à marcher avec moi. Puis en communion, ils se parlaient ensemble. Nous aussi, si nous suivons le Seigneur comme Élisée, suivait Élie. Si on regarde vers le retour de Jésus-Christ, parce qu'Élie a dit l'autre condition, c'est que si tu vois quand je vais t'enlever, qu'est-ce qui va arriver? Ça veut dire qu'Élisée qui marchait a regardé, puis il a vu Jésus-Christ quand il va venir dans sa gloire au retour sur la terre pour juger les nations puis établir son règne. Et puis venir dans son char avec faisant des vents, c'est des flammes de feu, ses serviteurs, puis venir avec le chariot pour prendre Élie puis l'enlever pour l'utiliser plus tard avant son retour sur la terre. Mais si tu vois ça, alors tu marches avec moi, mais tu as les yeux sur le retour de Jésus-Christ sur la terre, dans toute sa gloire, pour venir accomplir puis imposer sa loi sur la terre. Eh bien, ça va t'arriver que tu vas avoir le double de l'esprit que Dieu m'a accordé. Alors nous aussi, il faut marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, comme Élisée. Il faut regarder au retour de Jésus-Christ dans sa gloire. Et si on fait ces deux choses-là, puis qu'en marchant avec le Seigneur Jésus-Christ, on marche en communion avec lui, ça veut dire qu'il nous parle, puis on lui parle. Eh bien, il va nous arriver ce que 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16 et 17 nous dit, puis on revient dans 2 Rois, ne perdez pas la place. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16 et 17. Alors, Élisée avec Élie, c'est un bel exemple pour nous, un bel exemple pour Timothée. 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Alors, nous, on a juste la Bible maintenant, toute la Bible. Elle est toute inspirée de Dieu. Puis Dieu veut qu'on marche avec lui, puis à la lumière de sa parole, qui nous guérit, dirige, qui nous nourrit, qui nous éclaire, qui nous instruit, qui nous enseigne, qui nous parle, qui nous fait entendre sa voix. Et puis Dieu nous dit, toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et là, c'est utile pour faire toutes ces choses dans celui qui la lit, la parole. C'est elle qui enseigne, c'est elle qui convainc, c'est elle. Parce que quand on la prêche, eh bien, nous, on devient des gens qui savons enseigner, qui savons convaincre, qui savons encourager, qui savons faire les choses, parce que ce que Dieu fait dans nous, il va nous utiliser pour le refaire dans les autres autour de nous. Le corriger pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Puis dans l'original, le mot, c'est pas, ils ont dit deux phrases pour que ça soit le sens, si le sens est tout là. Mais quand il dit accompli, ça veut dire afin que l'homme de Dieu soit parfait, puis propre à toute bonne œuvre, ça devrait être écrit parfaitement parfait pour toute bonne œuvre. Puis parfaitement parfait, ça c'est le double de parfait. Comme Élisée a reçu. Parce qu'il avait les yeux sur... Il dit, si tu vois le miracle, c'était Dieu dans sa gloire qui est venu enlever Élie pas qu'il voit la mort. Puis quand Jésus-Christ va venir sur la terre et établir son règne, ceux qui vont être sauvés ne vont jamais voir la mort parce qu'ils vont vivre le 1000 ans de temps. Puis c'est tous des croyants, eux. Pas les autres qui vont naître, mais eux, ils vont entrer sauvés puis ils vont vivre ensuite dans la nouvelle terre. Ils ne vont jamais mourir. Comme Élie. C'est merveilleux. C'est l'image d'enlèvement de l'Église, mais quand Jésus va venir sur la gloire, ça va faire la même chose à ceux qui vont être vivants au moment du retour de Jésus-Christ. Parce que ceux qui sont laissés sur la terre, c'est les gens qui sont sauvés. Les autres sont emportés par le jugement, comme au jour de Noé. Maintenant, Jean chapitre 15, le verset 7. Jean chapitre 15, verset 7, avant de retourner dans notre récit. Ah! Oh. Jean 15, verset 7e. C'est pas la bonne place. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jésus-Christ nous dit, demandez ce que vous voudrez. Élie a fait une invitation à Élisée, puis a dit, demande-moi ce que tu veux. Puis Élie a obtenu le double de l'esprit, parce qu'Élisée a obtenu le double parce qu'il désirait, et il a demandé ce qu'il désirait, lui-même. Si on ne désire pas être une personne employée par Dieu, puis être à son service, puis qu'on ne le désire pas vraiment, bien, Dieu dit, mais tu ne me l'as jamais demandé. Faut que tu me serves, mais est-ce que tu veux me servir simplement ou est-ce que tu veux me servir le double de celui qui te prêche? Si tu veux me servir le double de celui qui te prêche, comme Élisée voulait le double de celui qui l'avait enseigné, bien, je vais te le donner. Si c'est vraiment ce que tu veux. Puis si toi, de ton côté, tu vas marcher avec moi, puis on va se parler en communion, je vais te parler par ma parole écrite, tu vas me parler dans la prière, puis on va communiquer ensemble, puis je vais t'équiper. Je vais t'équiper, je vais te rendre à maturité, puis je vais me servir de toi, comme tu m'as demandé. Le verset 12 à 14 de Jean chapitre 15. Verset 12 à 14. Oh, et je pense pas que c'est le bon verset. Non, c'est deux rois. C'est deux rois, chapitre 2, verset 12 à 14. Excusez, bon. Je suis mieux mes notes. C'est bien écrit comme il faut, ça m'a fait. Je vois un petit peu plus bas, c'est Jean 14, l'autre passage. Alors, deux rois, verset, chapitre 2, verset 12 à 14. Élisée regardait et criait, « Mon père! Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Et il ne le vit plus. Saisissant alors son vêtement, il le déchira en deux morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? » Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent, ça et là, et Élisée passa. Alors, la condition, c'était qu'il voit qu'est-ce qui se passerait quand je vais partir, que tu vois qu'est-ce qui va se passer. Il a vu, puis il a crié haut et fort. Il a vu Jésus sur son char avec sa cavalerie. Et puis ensuite, ça dit, et il ne le vit plus. Puis là, à partir de ce moment-là, la continuité de son ministère, il fallait qu'il fasse juste par la foi, pas par la vue, mais par une foi totale dans la révélation que Dieu lui a donnée. C'est ce qu'il a fait. On continue. Il a continué par la foi, comme Dieu lui avait demandé de faire. Il se dépouille de ses vêtements. Quand ça dit, il a regardé, et puis ensuite il ne le vit plus. La première chose qu'il a faite, il a saisi ses propres vêtements, puis il les a déchirés en deux, et puis il s'est dépouillé de ses vêtements. Ensuite, il relève le manteau d'Élie. La première fois qu'Élie l'avait vu Élisée, il lui avait donné son manteau, pas pour qu'il le garde, mais pour montrer qu'il mettait sur lui un ministère de prophète. C'était comme ça que les prophètes établis faisaient. Les écoles des prophètes, on va voir tout à l'heure les enfants des prophètes, eh bien, il allait dans des écoles de prophètes qu'Élie avait établies en passant pour apprendre, pour qu'ils, eux aussi, si Dieu les appelle, servent comme prophètes Israël. Ça fait que là, Élie, la première occasion, Dieu l'avait appelé comme prophète, puis il a dit, mais là, attends, j'ai des choses à faire. C'est pour ça qu'il a dit, mais là, mais si tu regardes, si tu vois, puis si tu marches avec moi. Puis là, Élisée, il était prêt à plus attendre. Mais que dès qu'il avait le manteau, qu'Élie avait laissé tomber, c'est bien Élie qui a laissé tomber son manteau. Il s'est répété deux fois. Verset 13, il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Son ministère à Élie était terminé. Celui de Jésus-Christ, d'Élisée commençait. Mais c'était la continuité du ministère de Jésus-Christ. C'est tellement beau. Il faut apprendre à marcher par la foi et non plus par la vue, à se dépouiller de nos vêtements pour continuer notre ministère, nous aussi. Et à rester fidèle à Dieu. Jean 14, maintenant, verset 11. Ensuite, on va revenir dans, toujours, on revient toujours dans deux rois. Jean 14, verset 11 à 13. Alors, c'est dans Jean 15. Élisée et Élie. Jean 14, verset 11, 12 et 13. C'est Jésus qui parle ici. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause de ses œuvres. Et là, ici au verset 11, eh bien, Jésus fait appel à notre foi, nous aussi. Qu'on marche par la foi. Et puis là, Jésus, il fait une grande déclaration. Il déclare la vérité au sujet des œuvres. Il veut qu'on croie, pas qu'on croie ça, mais qu'on croie Jésus qui nous dit ça. Il dit, croyez-moi. Alors Jésus nous dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je vais au Père. Jésus nous dit ça. Élisée voulait avoir le double de l'Esprit pour faire le double. Puis à l'école biblique, un de nos professeurs qui enseignait les études rapides, il avait expliqué tout ça, puis il avait tout calculé ça. Puis Élie avait fait 7 miracles, puis Élisée en avait fait 14. Il était tellement un homme, puis c'est un ingénieur, M. Cochrane, il était tellement gentil. Tellement un homme particulier, il parlait lentement, tellement lentement, mais il jouait au ping-pong tellement vite. C'était tellement drôle qu'il passait des fois avec la balle à l'île, il avait déjà fini, puis attendait la prochaine. La balle passait à côté de lui. On riait. Il était les deux extrêmes dans sa personne, dans son parler, dans sa spontanéité. C'était tellement intéressant, cet homme-là. Ah. Dieu nous dit qu'on va faire des œuvres plus grandes. La raison, c'est que quand Jésus a fait ses œuvres sur la terre, il l'a fait en tant qu'incarné. Et les autres œuvres qu'il veut accomplir, qu'il veut les faire par nous, il les fait comme Jésus-Christ, homme glorifié, que sa nature humaine a été déclarée à l'égalité de sa nature divine. Parce que Dieu, le Père, a appelé Jésus ressuscité, dans son corps ressuscité, il a appelé Dieu, puis il a ordonné aux anges d'adorer cet homme-là, glorifié maintenant, qui est Dieu, qui s'est fait homme. Mais là, Dieu a élevé le corps humain de Jésus-Christ parfait au même niveau que sa divinité. Fait que maintenant, Jésus-Christ fait des miracles encore plus grands. C'est pour ça qu'on va pouvoir être utilisé pour des plus grands miracles que ceux que Jésus-Christ a pu accomplir. C'est ce que Dieu nous dit qui peut arriver. Maintenant, il nous demande, qu'est-ce que tu veux? Oh, moi, je veux pas trop, mais je veux avoir une vie tranquille, Dieu, comme chrétien. C'est juste ça qu'on veut. Mais Dieu va respecter ça certainement, il va peut-être nous permettre quand même de goûter des grandes choses là, occasionnellement. Mais si on veut vraiment servir, puis qu'on veut servir, eh bien, à chaque occasion, Dieu va nous demander, on va être disponible. Puis Dieu va se servir de nous, puis il nous dit qu'il va faire encore des choses plus grandes, parce que là, il est dans son corps ressuscité, allé au Père, il est assis sur son trône, et puis il a tout entre les mains, le jugement de tout, et tout a été remis entre ses mains. Il y a beaucoup de choses que Jésus-Christ veut accomplir. Le verset 13 et 14, Jésus s'engage. Et Jésus nous dit, vous allez faire des plus grandes choses même, parce que je m'en vais au Père. Et là, il s'engage. Et Jésus me dit, et Robert, il te dit à toi aussi, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est pour ça qu'il va faire des choses plus grandes. Fait qu'il veut qu'on lui demande des grandes choses. Des grandes attentes. Je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, il le répète une deuxième fois. Il avait dit avant en vérité, là il répète deux fois, ça veut dire la même chose, ça veut dire que c'est vrai, vrai. On n'est pas en train de faire dire à la Bible autre chose, c'est vrai, vrai. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est encourageant. Dans le verset 15, Jésus s'est engagé. Verset 15, à nous maintenant de nous engager. Élisée a entendu de la bouche d'Élie, c'est une demande qui est difficile, hein? C'est une responsabilité pour qu'elle puisse s'accomplir. Alors Jésus nous parle aussi, puis il nous dit au verset 15e, à nous de nous engager à garder sa parole. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez les commandements que Jésus a donnés. Les commandements de Jésus ressuscité qui accomplit les commandements de Moïse qui sont maintenant plus une chose pour nous faire notre service. Ça montre qu'on est pécheur, ça condamne les gens pour qu'ils se voient condamnés, qu'ils méritent la mort, pour qu'ils acceptent qu'ils ont été crucifiés avec Christ, qu'ils confessent leur péché, qu'ils invoquent Jésus, qu'ils soient sauvés. Et nous, les commandements de Jésus, nous aller partout, prêcher la bonne nouvelle. Si on y va, il va avoir des résultats. Comme quand Jésus a dit « Lève-toi et marche », il y avait un résultat. La personne se levait, le résultat était là. Il fallait que la personne se lève. Il fallait qu'on aille, il faut qu'on témoigne. Jésus dit « Allez partout le monde, je vais être avec vous, inquiétez-vous pas. » Puis il va se passer des choses. Priez, il avait dit ça aussi. « Je vais agir. » La prière est en premier, et puis garder les commandements ensuite pour que Dieu... On se met à agir selon les choses. Comme il a dit, si tu vois les choses, si là tu portes attention, puis tu désires la gloire de Dieu, eh bien, tu vas avoir le double. Le verset 16 et 17 maintenant. Gardez les commandements de Dieu. Puis Jésus nous dit ceci, « Et moi, ceux qui s'engagent, je vais prier le Père. » Puis ils se sont engagés, les 11. Les autres l'ont fait parfaitement. Puis à l'Église, donne le même principe que Dieu nous donne. Puis il faut aussi être comme eux. Puis ils se sont engagés comme nous, on va s'engager. Avec tous leurs doutes puis leurs faiblesses qu'ils avaient, ils se sont engagés. Il dit, « Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous dans la personne de Jésus-Christ, et il sera en vous. » Et si bien Dieu nous donne cette portion-là du Saint-Esprit en chacun de nous, et c'est tellement beau. Élie a fait 7 miracles, comme je vous ai dit, Élisée en a fait 14. Comme Élisée, nous devons persévérer à marcher malgré toutes les incitations à abandonner. 2 Rois, chapitre 2, le verset 2. Malgré toutes les incitations à abandonner, Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Bethel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Bethel. Il y a un homme qui étudiait la Bible. Il étudiait la Bible dans les mêmes années que moi, j'étais à l'école biblique. J'en ai connu. Mais il parlait du bout de la langue et puis il avait vraiment un défaut. Puis beaucoup de pasteurs l'ont méprisé, puis l'ont ridiculisé, puis l'ont découragé qu'il y ait l'école biblique, que jamais elle va. Puis il a fait un beau ministère. Il est allé malgré toutes les incitations à ne pas y aller, à tous les découragements qu'on a pu lui faire. Puis il est allé, Dieu l'appelait, puis il est allé. Puis il passe au travers de tout ça. Et puis il a fait un bon travail. Ça fait qu'Élisée, il a persisté. Alors après qu'il s'est rendu jusqu'à Bethel, eh bien là, les fils des prophètes parlent et puis ils disent au verset 3 à Élisée, les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? » Il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Puis là, après que Élie a fini de visiter dans cette place-là où les fils des prophètes étaient, Élie devait aller dans un autre endroit, rencontrer d'autres personnes. Et puis Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie. » Il dit, « C'est moi que Dieu envoie, pas toi. Il m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Un point, c'est tout. Puis ils partirent, ils arrivèrent à Jéricho. Élie, il voulait vérifier qu'Élisée, il n'y avait plus d'excuses. Il dit, « Ben là, il faudrait que j'aille voir ma famille, il faudrait que je fasse ci. » Trois fois, il l'a mis à l'épreuve. Il a passé les trois épreuves. Puis ensuite, quand c'était le temps, il a dit, « Bon, ben là, si tu regardes, ça va s'accomplir. » Parce qu'il savait que là, il était déterminé. Puis il a été déterminé. Mais il a fallu qu'il mette à l'épreuve une troisième fois. Ah! Je suis rendu la troisième fois, je veux juste regarder. Ah! Le verset sixième. Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Puis là, c'était le lieu du départ. Hein, il enlève aujourd'hui, les premiers ont dit ça. Là, il s'en va dans une autre ville. La journée est presque finie. Là. Le jour approche de l'enlèvement. L'Éternel dit, il m'envoie au Jourdain. Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Là, ça ne dit pas qu'ils ont arrivé à Jéricho. Il dit là, ils ont juste continué à marcher. Puis ils ont continué à marcher l'autre bord du Jourdain. Puis pendant qu'ils marchaient, ouf, il est parti. Puis il dit, il a continué à marcher par la foi sans plus rien voir. Puis il a continué à marcher pour Dieu. Ce que Dieu nous demande, c'est de marcher dans la lumière qu'on a reçue. Puis à rester fidèle à ce que Dieu nous a montré. Il y a beaucoup de gens qui cherchent quelque chose de plus populaire. Puis on le voit, ça dissémine les sauvés. Puis ils se font attraper dans beaucoup de situations où ça rend à d'autres que c'est pas si important que ça. Puis là, ils mettent de côté les belles valeurs que pourtant ils avaient goûtées avant puis qu'ils avaient persévéré. Là, ils sont mis à marcher ensemble. Puis alors, Élie, puis son manteau, il a frappé et puis l'eau s'est séparée. Et puis, ils ont passé les deux ensemble au travers de l'eau verte. Après ça, sur l'autre côté, ils marchaient ensemble. Ils étaient toujours en train de marcher. Puis là, ben, dans leur communion, il a dit, « Demande-moi ce que tu veux. » Puis il a demandé la bonne chose. Il a trouvé que le ministère d'Élie était tellement merveilleux. Il voulait que son ministère à lui soit deux fois plus merveilleux encore. Pour Dieu, pas pour lui-même, pour Dieu. C'est ça qu'il voulait. Il voulait retourner à tous ces fils de prophètes-là, là, qui avaient toute l'information que lui avait, puis que quand il est enlevé, ils ne l'ont pas cru, eux, puis on dit il est tombé, puis il dit allez-y pour voir. Je pense que c'est juste que nous autres, on entend qu'ils ont confirmé que c'était vrai, qu'il était pas, Dieu ne l'avait pas jeté d'une montagne puis d'un ravin. C'est... Mais il n'y avait aucun doute. Il dit, est-ce que je ne vous l'avais pas dit que Dieu l'avait enlevé? Je l'ai vu. Monter dans le char avec Jésus-Christ. Puis retourner dans le ciel. Alors, comme il disait, on doit désirer et demander d'avoir le double. Désirer pouvoir servir plus le Seigneur. Élisée était toujours identifié par le fait qu'il versait de l'eau sur les mains d'Élie. À chaque fois qu'on parle d'Élisée plus tard, il dit, bon, c'est celui qui versait l'eau. Pendant tout son ministère avec Élie, il apportait l'eau pour que Élie se lave les mains, il disait. Il était comme insignifiant, il était comme peu important. Un peu comme Josué qui écrivait ce que Moïse, il recevait la loi Motamo, puis Josué restait d'entendre, puis il écrivait ça, puis il mettait ça au propre, puis il mettait ça tout beau. Puis quand Moïse devait mourir, Dieu a choisi Élie, il a choisi Josué, puis Josué a pris la place de Moïse, puis c'est lui qui a fait entrer dans la victoire. Il était toute sa vie à être au service de Moïse, dans la tente d'assignation. Deux grands hommes, Élisée et Josué, c'est le nom de Jésus aussi, Josué. Comme Élie, c'est Dieu est sauveur. C'était deux hommes qui ont eu des tâches longtemps, longtemps, qui leur semblaient insignifiantes et peu importantes. Puis avec un ministère si minime, ils se sont obstinés à continuer à marcher fidèlement, puis jusqu'au bout. Même s'ils ne sont pas utiles plus que ça. Mais on dit à Dieu, mais j'aimerais ça que ça fasse beaucoup. Alors Dieu leur a donné le double. Imaginez donc, une fois que Dieu a répondu à leur fidélité de marcher humblement avec leur Dieu. Regardez un miracle d'Élisée, 2 Rois chapitre 6. Un tout petit miracle, pour terminer. 2 Rois chapitre 6. Il y en a beaucoup de miracles. Je n'ai pas pris le plus spectaculaire. Versets 1 et 2. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y en ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Alors le verset 1 et 2, l'école des prophètes qui a été établie par Élie en passant, ceux qui étaient venus avant, puis il a fait des miracles. Ah non, ça commence comme ça. Je pense qu'il y avait eu le miracle de la farine avant, mais ça a suivi un peu plus tard, je suppose. Non, c'était avant, au chapitre 4. Fait qu'il nous avait déjà sauvé toute la vie au fil des prophètes. C'était assez un beau miracle pour ça. Fait que là, ils disent à Élisée, c'est étroit ici. On est rendu trop nombreux pour l'école. Et puis, ils ont suggéré d'aller au Jourdain, de prendre chacun une poutre, de faire une poutre chacun, et puis de chacun participer à la construction d'une place un peu plus grande pour leurs besoins. Puis Élisée a approuvé leur désir, puis c'était raisonnable, puis c'était correct. Puis ça nous montre aussi la même chose. Élisée visite les étudiants, puis les fils des prophètes, et puis c'est un homme de Dieu. Ils font connaître leurs désirs eux aussi, comment ils veulent pouvoir mieux être instruits, puis construire les choses. Ce grand homme-là de Dieu en communion avec les fils des prophètes. Les étudiants se retrouvent à un moment donné dans la détresse, puis Dieu va manifester son pouvoir par Élisée. Il aurait pu le faire, là, Dieu direct le pouvoir, mais il a fait le pouvoir par Élisée. Pour donner aux étudiants, comme moi, j'ai eu trois professeurs, je m'enseignais comme mon épouse, deux hommes de Dieu qui m'ont enseigné, qui m'ont beaucoup marqué. Puis Dieu les a utilisés pour ça. Et ça fait ça. Au verset 3, les fils des prophètes, Dieu ne les a pas identifiés. Comme si il ne veut pas qu'on connaisse leur vie privée. Mais au verset 3, l'un d'eux dit, « Consent à venir avec tes serviteurs. » C'est peut-être le plus petit, la plus jeune de tout le groupe des familles, des prophètes, petit garçon. Puis peut-être qu'il voulait savoir cet homme-là à côté de lui comme si son père, qui est un prophète, il aurait pu être là pour l'aider parce que c'est une grosse tâche. C'était peut-être le plus petit de la gang. Il dit, consent à venir avec nous. Puis il a consenti. Puis il y en a un autre ensuite. Hein? Il est parti avec eux au verset 4. Puis arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Chacun voulait en train de fabriquer cette poutre-là. Il y avait des instructions pour le faire. Et puis, il y en a un autre. Et comme l'un d'eux battait une poutre, puis il nomme pas encore, c'est un autre l'un d'eux. Ils avaient tous le même nom de famille. C'était tous des l'un d'eux. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur! » Il était emprunté. C'est tout ce qu'il a dit. Ça nous montre ici le beau principe pour l'Église aussi, que Dieu veut ça, que chacun de nous participe à l'entretien des choses, qu'on fasse des choses, et puis... On a fait des corvées ici, puis quand c'était une grande corvée, tout organisé, tellement de gens se sont impliqués, ont travaillé fort, ont traversé des choses. Et puis aussi, quand on participe, des contretemps arrivent. Puis là, un grand contretemps arrive. Cet élève-là, lui, il n'avait pas de hache. Puis il est allé emprunter une hache, je ne sais pas de qui, ça ne nous dit pas. Puis il a fallu que ça soit le fer de sa hache à lui qui part, qui se détache du manche, puis qui tombe dans l'eau. Puis il dit, ah, c'était emprunté. Il semble de voir le pauvre étudiant à l'école biblique. Pas beaucoup de ressources. C'était emprunté. Ce miracle a été beaucoup ridiculisé par les rationalistes. Il y a M. Farrar, un des gens de la haute critique, qui sont des gens qui prétendent croire en Dieu, puis qui font tout pour mépriser toute la Bible, puis pour essayer de montrer qu'il n'y a aucun miracle dans la Bible. Il n'y a jamais rien eu de miraculeux, vraiment. Puis pourtant, ils disent qu'ils croient d'un Dieu tout-puissant. Il s'appelait Farrar, un de la haute critique. Il a déclaré une parole. Parce que là, Élie a dit, il va dire, ben, il a pris un morceau de bois, puis il l'a jeté dans l'eau. Fait qu'il dit au sujet de ce récit-là, une parole aurait pris prééminence sur toutes les lois éternelles de la nature, comme si c'était un événement qui pouvait prendre place naturellement à tous les jours, sans qu'il y ait fait mention d'aucune invocation adressée à Dieu, aucune prière, rien. Juste, il a coupé un morceau de bois et l'a jeté à l'eau pour mépriser Dieu. Le fer pouvait être récupéré si facilement ou simplement remplacé par un autre. Pourquoi mettre dans la Bible un récit aussi stupide que ça? C'est ça qu'il a dit. Puis un autre, lui, il s'appelait Ewald. C'est un critique allemand. Il venait, beaucoup d'Allemands, je fais partie de cette autre critique-là. Lui, il a écrit, il a lancé une pièce de bois taillée pour qu'elle fasse dans le trou du fer, et puis la pièce de bois l'a fait reflotter parce que le manche était tellement plus gros. Ah! Oh! Puis il a utilisé le morceau de bois qui était dans le fer pour remonter le fer à la surface. Ces hommes nient le miraculeux. Ils prennent plaisir à faire du Dieu omnipotent, Dieu qui peut tout, en qui ils prétendent croire, en faire une personne, Dieu, qui soit esclave des lois de la nature qu'il a lui-même établies. Un Dieu qui n'aurait ni pouvoir, ni disposition de mettre de côté ses lois, qu'il a faites lui-même, pour ceux et celles qui placent en lui leur confiance. Je vous cite le commentateur, j'ai trouvé ça tellement beau, parce que c'est lui qui m'a informé des deux noms, c'était M. Gebelin. Il y a ici un grand réconfort pour nous qui plaçons en Dieu notre confiance, même pour une petite chose, aussi banale et aussi peu coûteuse qu'un fer d'une hache empruntée, que n'importe qui aurait pu aller juste chercher un autre fer puis le mettre sur le manche, parce que le manche était toujours là. Je suis arrivé à réparer un de mes manches de hache. C'était pas compliqué. C'était simple. Mais un grand réconfort de savoir que Dieu veut faire des petites choses qu'on va lui demander. Avec une grande attention. Avec un grand plaisir. La toute-puissance de Dieu se souciant lui-même de nos plus petits besoins. Lui qui remplit les cieux et les cieux des cieux, il désire qu'on apprenne à lui apporter nos plus petits soucis. Comme ce l'un d'eux a fait en s'adressant à Élisée. C'est un petit souci. C'était un accident. On est en train de faire une œuvre ensemble, et puis Dieu permet des contretemps pour bénir. Dieu veut qu'on apprenne à lui apporter les plus petits soucis. Puis 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Écoutez bien ça. 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. serait le bon chapitre. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Oh, les gros, on n'a pas besoin de se le dire, on y va tout de suite. On est tellement écrasé. Dieu dit, non, non, pas juste les gros. Tous vos soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Puis Pierre lui donne la raison. Ça, c'est au présent. La réponse. Car lui-même prend. Ça, c'est au présent. Pas va prendre. Lui-même, à chaque instant de nos vies, il prend soin de nous lui-même. Il ne veut pas qu'un autre le fasse pour nous. Dieu était honoré que l'étudiant, au lieu de trouver quelqu'un qui pouvait y acheter un autre fer, a juste exclamé, « Ah, il est emprunté !» Et que l'homme de Dieu puisse spontanément, dirigé par Dieu, utilisé par Dieu, faire surnager, et le mot est vraiment surnager, pourtant du fer, ça nage pas. Il n'a pas dit flotter, surnager dans une rivière avec l'eau courante. Le fer est monté à la place. Le bois, il a dû partir, et puis ils ont pris le fer et l'ont mis sur le vrai manche. Dieu lui-même, au présent, prend personnellement soin de vous, chacun. C'est pour ça qu'il veut qu'on prie. On va prier. Dieu, je veux te bénir beaucoup pour ta parole. Je veux te prier pour ces deux, l'un d'eux. Celui qui a invité le prophète à aller. Il n'avait pas fait ça, puis il a eu le contretemps, puis il aurait solutionné ça entre eux. Mais il y est allé parce que toi, Dieu, tu savais que la hache empruntée, le fer se détacherait. Et tu voulais utiliser ton serviteur pour que ces jeunes gens qui désiraient devenir eux-mêmes des prophètes sachent qu'il n'y a pas aucune tâche trop petite pour être présentée devant Dieu, ni une trop grande non plus. Parce que Dieu est omniprésent et omnipotent. Il a la toute puissance et il est présent partout. Et il prend au présent, prend soin de nous. On veut te remercier pour la prière. On veut te remercier aussi que tu nous as dit qu'il fallait qu'on marche par la foi. Tu nous as donné de voir Jésus-Christ par la foi. On était convaincus. Mais tu veux qu'on continue à marcher par la foi en Jésus-Christ, fidèlement, avec les Écritures pour qu'il nous parle et qu'on lui parle. Et on peut savoir que nous aussi, on va devenir des hommes et des femmes de Dieu parfait et parfaitement parfait pour toute bonne œuvre. Aide-nous donc, Seigneur, à désirer être utilisés pour toutes ces œuvres-là bonnes que tu as préparées d'avance pour qu'on nous, on les pratique et qu'on puisse chacun de nous faire chacune d'elles. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.